VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. Le Nigeria a un nouveau gouvernement, plus de 5 mois après la prise de fonction du président Muhammadu Buhari. Les détails avec Idriss Fall.
36 ministres et secrétaires d'État venus de 36 États de la Fédération ont prêté serment à Abuja. Le président Muhammadu Buhari, 72 ans, s'est réservé le portefeuille du pétrole gangréné par la corruption. Il aura pour adjoint Ibe Kasikou, tout nouveau patron de la compagnie pétrolière nationale. L'ancienne banquière d'affaires Kemi Adeosun sera aux finances pour tenter de remettre en marche une économie grippée par la dépendance vis-à-vis du pétrole dont les cours sont en chute libre. Le général à la retraite Mohamedou Mansour Dan Ali sera à la défense avec la lourde tâche de combattre Boko Haram. L'ancien chef d'état-major de l'armée Abdulrahman Dambazou prend le ministère de l'Intérieur. Un avocat d'affaires, Geoffrey Onéama, sera à la tête de la diplomatie.
Au Bénin, le président Yayi Boni, l'un des rares chefs d'État africains à s'être engagé à passer la main au terme de deux mandats, a choisi de respecter la Constitution nationale en ne se présentant pas à l'élection présidentielle de 2016. Il a expliqué son choix hier dans une interview à l'AFP en marge d'une visite officielle à Paris. Jean-Roger Bion.
Chacun sa conviction, la mienne c'est de respecter la constitution de mon pays qui prévoit deux mandats non renouvelables, a déclaré le président Boni Yayi. Je n'ai pas de leçon à donner, je ne veux critiquer personne, a immédiatement ajouté M. Boni Yayi, âgé de 63 ans, élu pour la première fois en avril 2006 et réélu 5 ans plus tard. De nombreux chefs d'État africains tels le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Zimbabwéen Robert Mugabe ou l'Ougandais Yoweri Museveni sont au pouvoir depuis plusieurs décennies et ne donnent aucun signe de départ. Au Burundi, la candidature en avril de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, considéré par l'opposition comme contraire à la Constitution, a plongé le pays dans une grave crise. Au Congo, le président Sassou Nguesso, âgé de 71 ans, a fait adopter en octobre une nouvelle constitution, lui permettant de briguer un mandat supplémentaire via un référendum dénoncé comme une tricherie par ses opposants. Chaque pays a ses spécificités, a estimé le président Boni Yayi. Il y a des chefs d'État qui travaillent, qui ont lancé de grands projets, qui sont animés par le peuple et qui sont passés par des méthodes démocratiques pour réviser leur constitution.
L'Afrique compte sur le sommet de La Valette à Malte aujourd'hui sur l'immigration illégale et aussi sur la conférence sur le climat COP21 pour financer son électrification. C'est ce qu'ont souligné hier à Paris 5 chefs d'État africains, le point avec Orzuma Compaoré.
Le président ghanéen John Dramani Mahama a déclaré que les problématiques de la migration et du changement climatique sont étroitement liées. En compagnie de Thomas Yayi Boni du Bénin, Alpha Condé de la Guinée, Ali Bongo du Gabon et du premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, ils ont été reçus hier par François Hollande à l'Élysée. Une réunion pour préparer la COP21 qui s'ouvre fin novembre à Paris, ainsi que le sommet de La Valette qui réunira mercredi et jeudi les dirigeants de l'Union européenne et d'une trentaine de pays africains sur la question des migrants. La désertification, l'érosion côtière, le manque de pluie provoqué par le réchauffement de la planète aggrave la pauvreté du continent subsaharien, a expliqué de son côté le président Yayi Boni. L'Afrique a aussi besoin d'électricité, a insisté le premier ministre éthiopien. 75% des Africains, soit 650 millions de personnes, n'y ont pas accès. Le coût d'une électrification complète du continent est évalué à 5 milliards de dollars par an pendant 10 ans.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Centrafrique, la situation sécuritaire se détériore de plus en plus à Bambari, la ville minière où est basée la milice Exceleka. Les tout derniers affrontements entre cette milice et les combattants anti-Balaka ont fait plusieurs morts et beaucoup de maisons ont été incendiées. Les précisions du maire de Bambari, Mathieu Pata, contacté par Pascaline Magalé.
On nous apprend qu'il y a des tueries là et là, mais sinon ce matin on avait trouvé 3 corps au niveau du centre-ville, donc certainement que ces hommes-là auraient été tués tôt ce matin quoi. Ben il y a eu une petite accalmie, mais toutefois il y a toujours la méfiance et même l'inquiétude aussi qui plane. Donc les gens n'osent pas quitter leur domicile.
Mathieu Pata, maire de Bambari en Centrafrique. Plus d'une soixantaine de dirigeants de l'Afrique et de l'Union européenne se réunissent mercredi et jeudi à La Valette, à Malte, afin de proposer de meilleures solutions pour résoudre la crise migratoire qui a vu des centaines de milliers de personnes fuir vers l'Europe cette année. Le point avec Jacques Aristide.
L'UE affirme que le sommet porte principalement sur les raisons qui poussent de nombreux Africains à partir de leur pays d'origine, mais aussi sur les voies légales de l'immigration, le renforcement des protections pour les migrants, la lutte contre les contrebandiers et la coopération avec les pays africains pour le retour des personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Ce sommet est un sommet où doivent découler des actions concrètes et pratiques, a déclaré le président du Conseil européen, Donald Tusk. L'Europe va ainsi débloquer une nouvelle enveloppe d'aide de l'ordre d'1,8 milliard de dollars en faveur des pays africains, mais les critiques affirment que l'UE cherche en fait à rapatrier les migrants vers les pays qui bafouent les droits humains et qui n'offrent pas d'opportunités économiques. Au moins 14 personnes sont mortes noyées ce mercredi après le naufrage d'un bateau qui avait quitté la Turquie en mettant le cap sur la Grèce.
Actualité aux États-Unis maintenant, le président de l'université du Missouri dans le Midwest a démissionné. Les étudiants noirs exigeaient son départ. L'équipe de football locale, avec essentiellement des joueurs noirs, et d'autres étudiants africains-américains lui reprochaient son indifférence à la guerre à l'égard des problèmes raciaux sur le campus. Écoutons les explications du professeur Jean-Germain Gros de l'Université de Saint-Louis dans le Missouri, au micro d'Idriss Fall.
Nous vivons encore les séquelles de Ferguson. L'Université de Missouri à Columbia est à 2 heures de temps de Ferguson. Donc après Ferguson, il y a eu une sorte d'effervescence à travers l'État de Missouri, y compris à l'Université de Missouri à Columbia. Mais l'administration, la hiérarchie administrative s'est révélée incapable de répondre aux attentes et aux demandes des étudiants.
Que pouvait faire l'université après Ferguson?
Bon, l'université pourrait se montrer plus sensible. Je ne crois pas qu'il y ait une politique claire, des méthodes ou bien des mesures, disons, spécifiques que l'université pourrait prendre sur le plan diplomatique. Eh bien, M. Tim Roof pourrait se montrer plus à l'écoute, plus sensible aux demandes des étudiants, en les invitant, par exemple, à les rencontrer à son bureau, en leur offrant sympathie. Donc, il s'est montré relativement insensible. Il a essayé d'ignorer les étudiants, ce qui a créé un sentiment de frustration.
Il y a même un étudiant qui était en grève de la faim et les joueurs de l'équipe de football ont commencé à bouder les terrains.
Oui, c'est ça. Donc, il y a eu en quelque sorte manque d'attention de la part de la hiérarchie administrative.
Mais est-ce que ça signifie que les étudiants noirs subissent le racisme jusqu'à présent dans certaines universités américaines?
Ah oui, bien sûr. Surtout à l'Université de Missouri à Columbia, mais également là où j'enseigne, à l'Université de Missouri à Saint-Louis. L'État de Missouri, en général, est un État très conservateur. La culture à Missouri, c'est une culture plutôt conservatrice. Il n'y a pas moyen de s'exprimer ouvertement sans attirer la foudre de certaines personnes.
Même si un noir, aujourd'hui, comme Barack Obama, dirige les États-Unis, les choses restent en l'état?
Ah oui, bien sûr. Vous savez que Obama a perdu l'État de Missouri à 2 reprises. En 2008 contre McCain et en 2012 contre l'ex-gouverneur du Massachusetts. Il y a eu un grand écart. Hein.
Mais ça ne veut pas dire qu'on peut toujours quand même voir les croix du Ku Klux Klan apparaître de temps en temps.
Non, c'est assez subtil. C'est pas ouvert. On ne va pas voir les croix du Ku Klux Klan et tout ça, mais quand même, on sent une certaine réticence de la part de la majorité blanche. Donc, c'est une sorte d'indifférence hein, qui alimente un sentiment de frustration chez les Noirs.
Le Noir est toujours l'homme invisible dans le Missouri.
C'est ça. Et la majorité prétend que nous n'avons rien à nous plaindre. Nous n'avons pas de raison de faire du bruit parce que tout est bien, tout va bien. Mais la réalité est nettement différente.
Jean-Germain Gros, professeur de sciences politiques à l'Université de Saint-Louis dans le Missouri. Et vous terminez, 8 policiers sud-africains ont chacun écopé ce mercredi de 15 ans de prison. Ils sont accusés du meurtre d'un chauffeur de taxi mozambicain en 2013, traîné sur la chaussée par un fourgon de police. Un supplice filmé par les amateurs et qui avait suscité l'indignation. Ce fait divers qui s'était produit à Devita, dans la banlieue de Johannesburg, avait profondément choqué l'opinion publique en Afrique du Sud. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
J'ai longtemps